I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Louis.
J'ai toujours été très proche de mon grand-père maternel, Hubert. Il sentait toujours bon, la peau de ses avant-bras était toute douce, et il avait toujours un mouchoir en tissu, soigneusement plié dans sa poche et prêt au moindre éternuement. Quand j'étais petite, je me suis souvent demandé ce qui faisait que j'étais si proche de lui, que je l'adorais autant. Je n'avais pas particulièrement l'impression que mes copines, à l'école, avaient la même relation avec leurs grands-parents. Comme élément de réponse, je me souviens que ma mère a avancé le fait que, quand j'étais toute bébé, mon grand-père s'était occupé de moi pendant plusieurs semaines, pendant le voyage de noces de mes parents. Je n'en ai aucun souvenir. Mais c'est vrai que quand j'imagine un quinquagénaire qui se retrouve en tête-à-tête avec un bébé, je me dis que ce n'est pas rien. Je peux facilement supposer qu'à ce moment-là, il y a eu un attachement fort et réciproque qui s'est noué. Et c'est vrai qu'en grandissant, cet attachement a toujours été là, il n'a jamais failli. Si je raconte tout ça, c'est parce qu'à partir du 1er juillet 2021, le congé paternité en France passe de 11 à 25 jours, en plus des 3 jours de congé naissance prévus par le Code du travail. Derrière cette avancée, il y a l'idée que le congé paternité est essentiel pour que le père puisse s'investir dès le début de la parentalité et puisse nouer un lien encore plus fort avec son enfant, comme moi avec mon grand-père. Mais cet allongement n'a pas que des répercussions dans la sphère familiale. Il affecte aussi celle du travail. Dans ce nouvel épisode de Travail en cours, le journaliste Antoine Lalanne-Desmet explore quelles vont être les conséquences de cet allongement du congé paternité. Non pas sur la relation père-enfant, même si c'est très important, mais sur les inégalités hommes-femmes dans le monde du travail. Je suis Louise Emerlé, bienvenue dans Travail en cours.
La suspension du travail de la femme pendant 8 semaines consécutives dans la période qui précède et suit l'accouchement ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat. Nous sommes en 1909 et c'est la première loi votée sur la protection de la maternité en France. À l'époque, la personne qui doit s'arrêter à la naissance d'un enfant est forcément une femme. Cette loi vise à protéger leur emploi et leur santé. Depuis, dans la loi, les termes ont changé. On ne parle plus seulement de maternité, on parle aussi de paternité et même de congé parental. Alors prenons les choses dans l'ordre. À l'arrivée d'un enfant, vous pouvez prendre congé de votre travail et vous êtes indemnisé par la sécurité sociale. La durée de ce congé varie entre quelques jours et quelques mois, selon que vous soyez le père ou la mère. C'est le congé maternité et le congé paternité. Pour les mères, c'est 16 semaines, soit 112 jours répartis avant et après l'accouchement. Pour les pères, depuis 2002, c'est 11 jours facultatifs après l'accouchement. Du moins, jusqu'au mois de juillet 2021. Car à partir de cette date, le congé paternité est étendu à 28 jours au total, dont 7 obligatoires. Hélène Périvier est économiste. Elle travaille à l'Observatoire français des conjonctures économiques de Sciences Po. Elle est directrice de Présage, un programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre. Pour elle, cet allongement est loin d'être suffisant, car cette réforme s'inscrit dans un cadre déjà bien trop déséquilibré.
Bien qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles formes de parentalité qui sont peut-être certainement une opportunité pour déconstruire cette division sexuée des rôles, les couples homoparentaux et puis des formes de famille différentes. Mais néanmoins, quand même, la majorité des couples sont des couples hétérosexuels. Donc la femme va être enceinte, elle va prendre ce congé maternité, donc elle va rester seule longtemps avec le bébé. Le congé paternité, on l'a dit, il est très court, même s'il va être allongé, il sera de toute façon beaucoup plus court que le congé maternité. Et puis, il sera pris de façon synchronisée avec le congé maternité. Donc le père n'est jamais tout seul face à cette tâche qui est s'occuper de l'enfant.
Tout ça s'inscrit dans un modèle global. Selon une étude de l'INSEE, 66% du travail domestique est pris en charge par des personnes du genre féminin. Et encore, cet indicateur ne prend pas en compte la charge mentale, le temps consacré à prévoir et organiser la sphère domestique, y compris la répartition des tâches parentales. Si vous rajoutez à cela le mythe de l'instinct maternel, le modèle général semble indiquer que c'est à la mère de s'occuper d'un nouveau-né. Le risque, c'est que le père ne soit qu'un aidant de la mère, quelqu'un à qui on indique quoi faire et peu autonome pour accueillir l'enfant. Cette inégalité s'accentue encore plus au moment du congé parental. C'est un congé facultatif, faiblement indemnisé par la Caisse d'allocation familiale, la CAF, que l'on peut prendre après le congé paternité ou maternité.
Si quelqu'un doit prendre un congé parental, on va plutôt choisir la mère, parce que d'abord, elle s'occupe de l'enfant déjà depuis quelques semaines ou quelques mois. Ensuite, parce que comme elle gagne moins bien sa vie que son conjoint et que le congé est indemnisé forfaitairement, le couple perdra moins si c'est elle qui prend ce congé. Donc, vous avez tout un ensemble de facteurs plus, évidemment, des normes sociales très fortes qui continue à diffuser l'idée que c'est plutôt quand même à la mère de s'occuper d'un jeune enfant et moins au père.
Et cette différence a des répercussions très concrètes dans le monde du travail.
Alors en fait, ce congé parental, il participe à accentuer la division sexuée des rôles. Et de fait, quand un homme ou une femme cherche un travail ou candidate pour un poste, l'employeur ne sait pas parfaitement quelle est la qualité de la candidature de la personne qu'il a en face de lui. Donc, il va essayer d'approximer cette qualité, le CV, l'entretien. Mais il restera toujours un doute. Et à la fin, quand on doit décider, s'il reste un homme et une femme, l'employeur sera plus enclin à recruter un homme ou à promouvoir un homme. Parce qu'en moyenne, et c'est vrai, c'est constaté, les femmes s'arrêtent plus souvent de travailler lorsqu'elles ont un enfant. Elles vont plus souvent demander un temps partiel, demander à partir plus tôt et éventuellement prendre un congé parental long. De fait, cette discrimination, elle pèse beaucoup sur les femmes, sur des postes plutôt qualifiés, où l'employeur ne souhaitera peut-être pas prendre ce risque-là, au regard du comportement moyen du groupe auquel appartiennent ces candidates, en l'occurrence le groupe femmes. Donc ça a vraiment un effet de réputation très fort. Et un des enjeux des politiques publiques, c'est d'essayer de rééquilibrer ce risque de parentalité sur les hommes comme sur les femmes. Mais pour l'instant, il est essentiellement porté par les femmes.
Cette différence dans les congés à la naissance d'un enfant, c'est un enjeu majeur pour l'égalité homme-femme dans le monde du travail. Marion de Bonneville travaille dans la finance. À l'arrivée de son premier enfant, Balthazar, elle s'arrête et prend son congé maternité. Son mari, Patrice Bonnefille, était lui à l'époque salarié en CDI dans une entreprise de relations clients. À la naissance de leur fils, il continue de travailler et décide d'attendre les 3 mois de Balthazar pour prendre son congé paternité, ce qui est tout à fait légal. La mère s'arrête, le père prend quelques jours de congé paternité, un schéma assez classique. Bon, je vais commencer par une question vraiment très simple. Déjà, comment tous les deux vous avez vécu ce moment après la naissance, pour les deux enfants, ce moment de congé? Déjà, d'un point de vue de la famille, comment vous l'avez vécu?
Alors, pour Balthazar, c'est simple, Patrice était salarié, donc on s'est dit les 10 jours, on va les garder pour un moment où on pourra vraiment en profiter. Donc on avait en tête plutôt un congé que lui qui va m'aider pour s'occuper de Balthazar. Et c'est vrai qu'on l'a pris, Patrice a pris son congé quand Balthazar avait 3 mois et on a pu partir à l'étranger. Donc c'était vraiment des vacances où il dormait mieux la nuit et on avait un rythme qui était plus simple.
Bah, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas pensé ce congé paternité comme ce moment de soutien à la maman. J'avoue, moi, je ne m'étais posé aucune question et Marion, les recherches qu'elle avait faites, lui avait fait décider que je prendrais ce congé à ce moment-là.
Recherche, non. On n'avait pas fait de recherche, c'était juste... On avait vu nos amis autour de nous, que c'était difficile à la naissance d'un enfant. Mm. Donc bon, plutôt que de le faire subir à deux, deux personnes, autant qu'une seule vive ça. Voilà, c'était ouais. plutôt ça l'analyse.
Et je ne m'étais pas posé de questions. Et en réalité, le problème, c'est que pendant les 3 mois qui ont précédé mes 10 premiers jours de congé paternité, j'ai quand même perçu que ce que vivait Marion était quelque chose de difficile. Moi, j'allais au travail, je rentrais à 19h et je me sentais un petit peu déconnecté de la famille. Et je ne savais pas trop comment l'expliquer, parce qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est que passer une journée avec un nouveau-né tant qu'on ne l'a pas vécu.
Non, mais aussi parce que j'allaitais, donc on s'est dit « tu vas servir à rien, moi je veux juste allaiter, qu'est-ce que tu vas faire ?» En fait, tu aurais pu faire beaucoup de choses, mais on n'avait pas conscience. Donc on était là, de toute façon, t'allaites, puis il dort, et puis tu te reposes. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça.
C'est ce que je veux dire dans le fait qu'on n'a pas décidé. C'est-à-dire qu'on a fait tel que le modèle général nous semblait nous indiquer de faire.
Ce modèle dont Patrice parle, c'est celui des pères qui prennent le congé paternité, certes, mais pas plus. Et encore, 3 pères sur 10 ne prennent même pas ces 11 jours durant les 4 mois qui suivent la naissance d'un enfant. Dans le détail, on se rend compte que ça dépend beaucoup de la stabilité de l'emploi des pères. Par exemple, parmi les indépendants, ils sont seulement 3 pères sur 10 à prendre leur congé paternité. Et parmi les personnes titulaires d'un CDD, c'est seulement 1 père sur 2. L'économiste Hélène Périvier m'a expliqué pourquoi les hommes, en 2021, ne posent pas toujours leur congé paternité.
Alors, d'abord parce que ils sont souvent dans des secteurs où ils ont besoin de faire leurs preuves. Donc, quand vous êtes en CDD, si vous dites « je prends mon congé paternité », votre employeur peut estimer que vous n'êtes pas très investi. Ça peut être aussi pour une question d'accès aux droits, c'est-à-dire que vous n'avez pas suffisamment, vous n'êtes pas éligible. Mais néanmoins, cette question, je pense qu'on peut y répondre assez facilement en rendant obligatoire le congé paternité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'une partie du congé maternité est obligatoire. C'était pour couper court à toute forme d'oppression ou de pression faite sur les femmes, en leur disant « Ah, attention, si tu prends ton congé maternité, tu ne seras pas promu ou tu ne seras pas payé ou tu seras renvoyé. » Donc, en le rendant obligatoire, on interdit à l'employeur de faire travailler la personne pendant la durée du congé. Et de fait, on coupe court à tous ces problèmes-là. Et de fait, tous les pères qui sont éligibles au congé paternité, s'il est obligatoire, ils pourront le prendre et ils pourront véritablement profiter de ce droit de façon effective, qui aujourd'hui est essentiellement pris par des pères qui sont plutôt bien placés professionnellement, en CDI, bien sécurisés, parce qu'il n'y a aucun risque ou quasiment aucun pour eux de prendre ces 11 jours et qui vont devenir 22 jours. Voilà, donc qui reste quand même tout à fait mineur par rapport au temps que l'on doit consacrer à l'enfant de façon générale. Donc voilà, je pense qu'effectivement, l'obligation, c'est une façon de répondre à cette question.
En Espagne, le congé paternité vient de passer à 4 mois, soit 16 semaines de congé pour chacun des deux parents, avec 6 semaines obligatoires pour chacun. Cette simple comparaison montre que la marge est grande par rapport aux 7 jours obligatoires pour les pères en France. La législation peut encore évoluer. Le rapport remis par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik à Adrien Taquet, secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles, recommande 9 semaines de congé paternité, soit 63 jours. Pour l'association Parents et Féministes, un congé équivalent à celui des mères, rémunéré et obligatoire, permettrait aux pères de rester dans leur famille, de prendre soin des mères et d'apprendre les gestes nécessaires aux soins d'un nourrisson. Et pour cette même association, l'allongement du congé paternité pourrait aussi être une piste pour rétablir un semblant d'égalité entre les carrières des femmes et celles des hommes. Ce serait une première étape, mais l'enjeu se situe aussi autre part. Si on veut vraiment faire en sorte que les congés liés à la naissance d'un enfant cessent de stigmatiser les femmes sur le marché du travail, il faut aussi se pencher sur le congé parental. Le congé parental, il est facultatif et il se prend après le congé paternité ou maternité. Il vise à arrêter de travailler ou réduire son temps de travail jusqu'à la scolarisation de l'enfant. Ce congé entraîne une suspension de salaire compensé par une indemnité de 397,21 € par mois par la CAF.
Le congé parental, c'est plutôt une politique d'articulation vie familiale, vie professionnelle, où certains parents peuvent préférer rester à la maison pour s'occuper eux-mêmes de leur enfant plutôt que de le confier à une crèche. Et c'est ce congé-là qui est particulièrement problématique au regard des inégalités professionnelles.
En France, selon une étude de l'INSEE, le congé parental est pris par 30% des couples. Ce congé peut être pris par l'un des parents dans le prolongement du congé paternité ou maternité.
Il peut durer jusqu'à 2 ans maximum par parent aujourd'hui, mais jusqu'à il y a peu, c'était 3 ans, jusqu'à la scolarisation de l'enfant. Donc, il est assez long. Ça veut dire qu'il peut éloigner du marché du travail les personnes qui le prennent. Et puis, ça va avoir un effet sur l'ensemble des femmes qui travaillent, puisque ce sont principalement que des femmes qui ne prennent ce congé. Et puis, un deuxième aspect de ce congé, qui est spécifique à la France aussi, c'est qu'il est très mal indemnisé. C'est forfaitaire, et c'est autour aujourd'hui d'un tiers du SMIC, ce qui est très faible. Ce qui fait qu'en fait, il est finalement assez peu pris par rapport à d'autres pays. Et il attire plutôt une population de femmes pas trop qualifiées, voire très précaires, ou moyennement qualifiées, mais qui ont un emploi stable. Et du point de vue du droit du travail, quand on a suffisamment d'ancienneté chez son employeur, on est couvert, c'est-à-dire qu'on est sûr de retrouver son emploi après ce congé. Ça peut créer des conditions très hétérogènes selon les femmes, et c'est effectivement un facteur d'accentuation des inégalités femmes-hommes sur le marché du travail.
30% des couples qui prennent un congé parental, ce n'est pas la majorité des Français. Mais c'est suffisant pour que des employeurs craignent qu'une femme prenne ce congé. Heureusement, face aux injonctions d'une société patriarcale et l'incapacité parfois du monde du travail à prendre en compte l'arrivée d'un enfant, les lignes bougent. Patrice Bonnefille, par exemple, a pris 2 mois de congé parental à l'arrivée de son second fils Léopold. Ce n'est pas énorme, mais c'est beaucoup plus que pour son premier enfant. Il parle de privilège.
Alors en fait, ça s'est fait un peu par hasard. Dans la mesure où moi, j'avais quitté l'entreprise qui avait racheté mon entreprise précédente pour monter de nouveaux projets. Et je ne savais pas encore exactement quoi. J'étais en recherche de nouveaux projets. Et Marion m'a pas proposé de partir en congé paternité de 2 mois. Elle m'a dit, comme c'est le printemps, on va pouvoir profiter d'une maison à la campagne et ça sera plus agréable pour nous que d'être à Paris avec le bébé. Et elle, je crois que tu m'avais dit que je pourrais travailler l'après-midi, littéralement. Et en fait, arriver dans une maison avec un enfant de quelques semaines, un enfant de 2 ans, et puis nous deux, je me suis aperçu très rapidement que le principe de travailler était absurde dans la mesure où déjà dormir et manger un peu était difficile. Et j'ai eu le privilège, la chance de pouvoir me dire « j'arrête jusqu'à notre retour à Paris, j'arrête complètement, j'essaye pas de travailler et je me consacre totalement aux soins de cette petite famille ». C'est un privilège parce que effectivement, moi, j'étais dans une situation où j'avais les moyens de ne pas travailler du tout pendant 2 mois, ce qui n'est pas du tout donné à tout le monde, ce qui n'est pas du tout évident. C'est une chance parce que Marion me l'a imposé, sans me l'imposer, sans que je m'en rende compte vraiment. Et du coup, on a pu le vivre par hasard et en profiter. Donc oui, c'est un énorme privilège et je suis très, très heureux d'avoir eu cette opportunité de découvrir complètement un nouveau monde.
Et forcément, l'implication de Patrice Bonnefille dans les premiers mois de son enfant a eu un impact fort dans la répartition des rôles et des tâches entre les parents.
Moi, j'ai déjà compris en fait ce qui s'était passé pendant le premier congé maternité de Marion. Tout ce que je comprenais pas en rentrant à 19h, je l'ai vécu. J'ai vécu le fait d'être épuisé le soir à 19h, d'avoir besoin de passer le relais, de faire un break, etc. Et ça m'a fait comprendre énormément de choses. Ça m'a permis de passer un cap en termes de gestion du foyer, parce que même si je m'en occupais tous les soirs, etc., j'ai l'impression que je restais beaucoup en exécutant, c'est-à-dire que Marion me donnait des instructions et j'appliquais, et elle planifiait tout. Et là, le fait de vivre ces 2 mois, ça m'a quand même fait progresser, comprendre le principe même de charge mentale, et découvrir qu'effectivement, je pouvais prendre des responsabilités, je pouvais prendre des décisions, et on pouvait partager ça, plutôt que je sois exécutant et que Marion soit parent principal.
Depuis, marqué par cette période et les échanges avec d'autres parents à travers son site internet Le Paternel, Patrice Bonnefille a lancé Remixte, une organisation qui accompagne des entreprises sur des questions de diversité et d'inclusion. Et l'accueil de la parentalité en entreprise est au cœur des missions. Il a pour objectif de montrer le positif pour les entreprises à valoriser les travailleurs qui sont aussi parents.
Je me rends compte qu'en fait, les parents sont de bien meilleurs investisseurs que les non-parents et qu'on est beaucoup plus efficace. On n'est pas obligé de passer des heures en réunion, on va direct à l'essentiel Et donc je pense qu'au contraire, moi, ça m'a aidé à grandir, à être plus mature et à être bien meilleure dans mon métier d'avoir un enfant. Parce qu'on a envie de rentrer pour les voir, de passer du temps avec eux. Et donc, on n'a pas envie de rester pendant 3 heures à s'écouter parler. Parfois, c'est un peu le cas en réunion. Hein. Les gens s'écoutent parler et on n'avance pas et il n'y a pas de conclusion. Donc, on manque d'efficacité. Voilà, ça, c'est le problème récurrent dans toutes les entreprises, l'efficacité des réunions.
On devient plus productif, on n'a plus envie de perdre de temps, entre guillemets, quand on est devenu parent et qu'on a effectivement d'autres choses à gérer. Et c'est mesuré par la science que les parents sont plus productifs que les non-parents. Et les hommes qui s'occupent des enfants progressent en capacité de négociation, en empathie et en capacité de gestion de plusieurs tâches à la fois, professionnellement.
Et certaines entreprises en sont conscientes. Elles proposent à leurs employés des congés plus avantageux que ce que proposent les États à leurs citoyens pour l'arrivée d'un enfant. C'est le cas, par exemple, de Salesforce. Cet éditeur de logiciels informatiques basé à San Francisco aux États-Unis est présent dans le monde entier. Véronique Marimont y travaille. Elle fait partie du secteur ressources humaines au poste de Chief of Staff.
Si j'essaye de résumer la façon dont ça fonctionne, hein, ce qu'on fait, c'est qu'on va au-delà des minimums légaux et on offre jusqu'à 26 semaines de congé parental.
Dans cette entreprise, depuis 2017, à l'arrivée d'un enfant, les parents peuvent bénéficier d'un congé rémunéré par l'entreprise d'au moins 12 semaines et d'un retour progressif au travail sans distinction de genre ou d'orientation sexuelle. Pour le second parent, c'est une opportunité, car c'est 3 à 4 fois ce qui est actuellement proposé par le congé paternité en France. C'est pour les couples une possibilité pour organiser la garde de l'enfant à égalité.
Pour bien comprendre par contre notre politique, j'ai besoin de vous définir quelques notions. Parce qu'en fait, au sein d'un couple, on définit la notion de premier aidant et la notion de second aidant. Alors c'est quoi ça ? Le premier aidant, finalement, c'est celui qui assume le rôle principal pour les soins et l'attention portée à l'enfant. Et le second aidant, c'est celui qui fournit un soutien à son partenaire. Et c'est des règles qui sont valables, bien sûr, si les couples sont des couples hétérosexuels ou homosexuels. Ça, c'est au sens large. Alors, si je prends par exemple une famille où c'est la maman qui travaille chez Salesforce et se déclare comme premier aidant, elle va disposer de 16 semaines de congé maternité. Hein, et ensuite, elle peut même prendre encore 10 semaines de congés supplémentaires, de congés maternité. Et lui, le papa, il bénéficiera, par exemple, des congés des conditions de sa société. Mais si je reprends le même exemple où la maman ne travaille pas chez Salesforce et c'est le papa qui travaille chez Salesforce, alors il peut choisir d'être soit le premier aidant, donc d'assumer le rôle principal pour les soins de l'enfant, et il va disposer de 16 semaines de congés paternité, ou bien il va être le second aidant, et dans ce cas-là, il disposera de 12 semaines de congé paternité.
Sur le papier, on pourrait se dire que Salesforce a de la marge pour continuer à proposer un tel congé à ses employés. Le chiffre d'affaires de l'entreprise, coté en bourse, est de plusieurs milliards de dollars. Mais ce n'est pas uniquement un cadeau proposé aux salariés. Salesforce y trouve aussi des avantages.
Ce congé parental, finalement, il a une influence bénéfique sur le mode de management parce que ça nous permet d'avancer toujours plus, finalement, dans un management par la confiance et un degré d'autonomie plus avancé. Donc, quand un de nos salariés va prendre son congé parental et un papa s'absenter pour 12 semaines, c'est aussi l'opportunité de laisser une marge d'autonomie plus forte à ses équipes, d'instaurer une relation de confiance qui est encore renforcée. Ce qu'on pense, c'est que derrière un client heureux, il y a un salarié heureux. Et les valeurs humaines sont importantes pour nos salariés. Une étude, hein, OpinionWay sur le sujet, dit que 28% hein, des salariés admirent les valeurs des entreprises pour lesquelles ils travaillent. Hein. C'est pas beaucoup. Et ce qui est certain, c'est qu'un employé engagé, il est plus performant. Donc, accorder cette période où un salarié va pouvoir prendre du temps pour soi, va pouvoir prendre du recul, c'est finalement une façon aussi de vivre hein, nos valeurs d'entreprise, nos valeurs de confiance, nos valeurs de sincérité quand on s'intéresse à nos employés. Et ils nous reviennent aussi avec finalement l'envie, un regard nouveau, un regard avec un petit peu plus de distance et un engagement qui est encore renforcé.
Salesforce n'est pas la seule entreprise à avoir mis en place ce système. D'autres entreprises, et notamment des géants du numérique, proposent des systèmes de congés similaires. C'est pour eux un moyen d'attirer les plus compétents et les plus compétentes.
Je pense que notre entreprise, ayant vraiment à cœur le bien-être de ses employés, se penche sur des bénéfices en faveur de chaque employé et de sa famille. Donc, c'est aussi ce qui nous aide à attirer et à retenir des talents et du coup à offrir un succès finalement à nos clients. Voilà, c'est une des raisons aussi pour lesquelles les employés nous rejoignent. On voit clairement un lien entre l'engagement des employés, le fait qu'ils se sentent bien au sein de notre entreprise et la performance de nos employés. On est depuis plusieurs années au palmarès de Great Place to Work. Je pense que c'est aussi ça qui est exprimé derrière ces positions au palmarès.
On peut voir une vraie avancée dans le fait que de grandes entreprises privées globalisées s'engagent de cette manière. Mais pour équilibrer les conditions de congés pour tous, une des solutions serait que l'État s'engage davantage. Hélène Périvier, chercheuse en économie et plusieurs fois auditionnée à l'Assemblée nationale, m'a rappelé le rôle des politiques publiques et la manière dont elles peuvent influencer puissamment les comportements individuels.
Alors, si on reprend une perspective plus longue sur toute l'organisation de la société en général, il y a toute la sphère dite productive, et je vais prendre un vocabulaire un peu marxiste, et la sphère reproductive, c'est-à-dire celle qui permet la reproduction de la force de travail, c'est-à-dire avoir des enfants, élever ses enfants, tenir la maison, etc. Pendant très longtemps, pour la plupart des couples, cette organisation n'était pas soutenue par des politiques publiques, puisqu'au XIXe siècle, elles étaient quasi inexistantes. Les deux travaillaient, et la plupart des gens travaillaient, et les femmes ont toujours travaillé. Hein. Cette idée famille versus travail, c'est une dichotomie très moderne. Hein. Donc pendant très longtemps, les femmes ont travaillé, y compris à l'extérieur du foyer. Néanmoins, quand elles avaient des enfants, elles ajustaient leur temps, ce qui pouvait créer évidemment une grande précarité, voire une pauvreté pour les familles avec enfants, des classes populaires. Donc ça, c'est un peu l'organisation jusqu'au XIXe siècle. Et puis, les politiques publiques se sont construites avec une vision très genrée de l'organisation de la société. Et donc, petit à petit, les États sociaux sont venus soutenir ce modèle spécialisé en encourageant les femmes à se concentrer sur la famille et l'éducation des enfants, et les hommes à se présenter sur la sphère marchande, avec des politiques publiques qui vont venir compenser financièrement le fait que ce couple perd un deuxième salaire, même s'il était souvent plus faible, puisque les femmes ont toujours été moins rémunérées que les hommes. Et donc, toutes ces politiques publiques, on peut parler, alors, dans les années 30, en France, c'était l'allocation salaire unique, mais dans les années 50, c'est la mise en place du quotient conjugal, c'est-à-dire l'imposition des couples mariés qui permet de compenser le fait que son conjoint est inactif et n'a pas de revenus, et qui est encore aujourd'hui en cours en France. Toutes ces politiques opèrent une redistribution très importante des couples sans enfants ou des personnes sans enfants vers des couples qui sont spécialisés et qui ont des enfants. C'est pour ça qu'il me semble que la terminologie ou le concept de travail non rémunéré ou gratuit me semble pas approprié, en tout cas doit être historicisé et replacé dans son contexte géographique. En tout cas, pour la France du XXe siècle, il est inapproprié de parler de travail non rémunéré puisqu'il est précisément socialisé par des politiques publiques qui le rendent soutenable. Maintenant, il est profondément injuste et assujettissant pour les femmes puisque c'est bien sûr une assignation pour les femmes à rester au foyer.
J'ai donc demandé à Hélène Périvier quel serait pour elle le congé parental idéal, accessible à tous et toutes, et dont pourrait découler une vraie égalité entre parents.
Dans l'absolu, je pense que d'abord, il faut repenser ça dans le contexte français avec les forces que nous avons, qui ne sont pas celles des pays nordiques. Je trouve que ce serait une erreur de caler les modèles nordiques sur le cas de la France. Parce qu'en France, on a cette chance de ne pas stigmatiser les mère de jeunes enfants qui travaillent. On peut parfaitement avoir un enfant, le confier à 4 mois dans une crèche. Personne ne vous dira que vous êtes une mauvaise mère. C'est très rare en Europe, je peux vous dire. Et c'est absolument impossible dans les pays nordiques où les parents doivent s'occuper impérativement de leur enfant durant sa première année. Or, je trouve que chacun doit pouvoir trouver sa forme de parentalité et cet équilibre entre sa vie familiale et sa vie professionnelle. Donc, il nous faut repenser quelque chose qui soit approprié pour le cas de la France. Si j'étais très transformative du point de vue des congés parentaux, j'aurais presque envie, là pour le coup, de m'inspirer du modèle islandais, de fusionner maternité, paternité, congés parentaux et de donner ou de proposer un congé parental de 6 mois par parent, bien rémunéré. Alors, il faudrait penser la synchronisation ou non entre les deux congés, mais avec cette idée que voilà, on intègre tout ça dans un congé unique qui permette aux parents de prendre le temps qu'ils souhaitent un peu avant, aux femmes un peu avant la naissance, et puis après au père de prendre sa place ou au second parent, et puis ensuite avec une possibilité aussi de confier son enfant 4 mois après sa naissance ou 3 mois après sa naissance. Ou 6 mois, ou 1 an si les deux parents prennent les 6 mois. Je pense que ça, ce serait très transformatif. Et puis ensuite, repenser un système de service public de la petite enfance qui est pas si mal en France, mais qui est quand même très loin du compte en matière de nombre de places possibles, qui doit être articulé avec l'école préélémentaire. Ensuite, si j'étais moins transformative, ce congé, je garderais maternité-paternité tel qu'il existe et je créerais tout simplement un autre congé plus court, encore une fois, bien rémunéré et de toute façon avec un fort investissement sur les services publics d'accueil de la petite enfance, puisque évidemment, si on limite le congé parental, il faut impérativement que les parents puissent trouver une solution de garde pour reprendre leur travail. Donc, je pense vraiment qu'il y a beaucoup à faire en matière de politique d'articulation vie familiale, vie professionnelle, avec un objectif d'égalité femmes-hommes et un objectif d'égalité des enfants sur le territoire et entre classes sociales. Voilà, en gros, moi, ce que je proposerais comme grand plan de refonte de ces politiques.
Et pour financer ce projet, Hélène Périvier voit une solution du côté du quotient conjugal. Il s'agit d'une réduction d'impôt. Depuis 1945, le taux d'imposition d'un couple marié ou pacsé est calculé sur la moyenne des deux revenus. C'est le quotient conjugal. Si les conjoints ont des revenus différents, il y a dans 60% des cas un avantage fiscal. Résultat, s'il y a une différence importante entre les deux revenus, on paie moins d'impôts. Ce quotient conjugal est avantageux. Il peut aussi décourager l'activité ou la reprise d'activité du membre du couple le moins payé. Et sans surprise, dans 3/4 des cas, c'est une femme.
Si nous avons une perspective un peu systémique, alors il est possible de trouver des marges de manœuvre. Par exemple, le quotient conjugal, c'est un système qui n'est pas plafonné. Hein. Le quotient familial est plafonné. Quand on a un enfant, on a une part fiscale, mais cet avantage ne peut pas dépasser 1 500 € par demi-part. Le quotient conjugal ne l'est pas, donc il n'est pas du tout plafonné. Il peut aller jusqu'à 32 000 € de réduction d'impôt pour des gens très, 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 très riches, donc il y en a très peu. Mais néanmoins, politiquement, c'est intéressant de voir qu'il n'a pas été plafonné. Donc là, il y a, à mon avis, des marges de manœuvre qui iraient dans le même sens, c'est-à-dire qui porteraient l'égalité femmes-hommes à la fois du point de vue des congés parentaux et du point de vue de l'imposition. Juste pour vous dire, on a fait une étude avec des collègues de l'OFCE. Si on plafonnait le quotient conjugal au niveau du quotient familial, ça rapporterait 3 milliards de recettes fiscales supplémentaires par an, largement de quoi financer ce congé parental dont nous parlions. Et si nous individualisions complètement l'impôt sur le revenu, ce serait 7 milliards d'euros par an. Donc voilà, je pense qu'il y a matière à avoir une réflexion un peu systémique de nos politiques publiques. Si on sait où on veut aller et si on veut aller vers l'égalité, eh bien alors il faut avoir une perspective globale en ayant des politiques fiscales, sociales qui aillent dans le même sens. Mais aujourd'hui, on est loin du compte.
Nous ne prenons pas nos responsabilités face aux tâches domestiques et parentales. Nous jouissons de privilèges et d'avantages sur le marché de l'emploi. Il faut l'admettre, mais aussi chercher une possible réparation et agir pour favoriser la transformation sociale collective. Ces mots, ils sont extraits du petit guide du Disempowerment pour hommes rédigé par Francis Dupuy-Derry, une inspiration pour les hommes qui espèrent un jour une société égalitaire. Alors pourquoi ne pas se lancer ? Mais la réflexion doit être globale. Si on regarde la Norvège, dans ce pays, les parents peuvent se partager 46 semaines de congés avec un minimum de 10 pour les femmes et de 15 pour les hommes. L'État indemnise le congé en couvrant 100% du salaire. La prise de congé est donc plus égalitairement répartie entre les genres. Pourtant, l'inégalité salariale y est importante. Les femmes gagnent en moyenne 15% de moins que les hommes. C'est, à un point près, la même différence qu'en France. Cela veut dire que la mise en place d'un congé parental égalitaire ne permet pas non plus de résoudre instantanément les inégalités hommes-femmes au travail. Pour avoir des changements sur une large échelle, une réforme du système de congé implique une refonte du système de garde, une volonté politique et plus globalement, une remise en question des habitudes patriarcales.
Vous venez d'écouter Travail en cours, un podcast de Louis Média. Si vous souhaitez nous partager votre histoire par rapport au travail, vous pouvez nous écrire à hello@louismedia.com. Cet épisode a été tourné et écrit par Antoine Lalanne-Desmet. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par le studio La Fugitive. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Travail en cours, c'est tous les jeudis. Et vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, SoundCloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Émotion, Le Book Club, Injustice, Passage. À bientôt.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone. But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX.